Bonjour. La saison est repartie. Hein? L'école, les enfants sont à l'école. C'est fait, ça commence. Eh bien, nous aussi, on recommence notre saison avec les deux services ce matin. J'avais oublié cette semaine, et puis à un moment donné, tu y penses, tu oublies, puis tout d'un coup, je disais, hey, c'est vrai, j'ai dit dimanche, faut pas se rendre là à 10h, c'était à 9h. Eh bien, on est bien content de vous voir ce matin, puis si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à aller au kiosque, on a un petit cadeau pour vous, et il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on vous accompagne et que vous avez des questions sur l'Église, n'hésitez pas, vous pouvez donner votre nom, et ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, vous parler un peu de ce qu'on fait, ce qu'on croit. Et vous cheminer avec vous pour vous aider peut-être à comprendre un peu mieux la Bible si jamais vous commencez à lire la Bible. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un à côté qui nous aide un peu, qui nous guide. J'ai bien apprécié ça il y a plusieurs années lorsque je me suis intégré à l'église de Chamédé. Aujourd'hui, on appelle l'église de l'île Jésus. On a pu suivre un cours pour les nouveaux. Ça s'appelait « Le maître et son disciple ». Et c'est vraiment bien parce que ça te place, ça t'explique un peu la base, ça t'aide à comprendre un peu les principes de base des Écritures. Alors, n'hésitez pas, vous allez au kiosque, on a un cadeau pour vous, et puis si vous voulez laisser votre nom, on va pouvoir aller vous rencontrer, mais c'est comme vous voulez. Alors, à ce point-ci, je pense qu'on connaît pas mal tous Google, n'est-ce pas, le moteur de recherche sur l'Internet. Si moindrement vous jouez un peu sur l'Internet, vous allez vous promener, soit pour aller chercher des recettes, Ricardo, des beaux sites sur Internet, Ricardo, des bonnes recettes. J'en ai essayé quelques-unes cet été, barbecue. On connaît ça, la machine de recherche, c'est le plus gros, Google. Tiens, juste pour vous aider peut-être à voir un peu, vous rappeler ce que ça a l'air, si jamais ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas vu ça, c'est Google. Eh bien, vous mettez un mot juste dans le centre, là, vous voulez chercher quelque chose, n'importe quel sujet, et puis vous mettez un mot, et là, le moteur de recherche va aller à travers les millions de sites à travers le monde, ça vient un peu partout, pour aller vous montrer un peu, un à la suite de l'autre, différentes options, vous pouvez avoir d'informations sur ce sujet-là que vous cherchez. Eh bien, cette année, une firme de consultants en marketing en Australie, cherchait à comprendre le volume de recherche qui se faisait selon les sujets recherchés, en se servant d'une méthode qu'ils ont appelée la cible de correspondance exacte. Ils ont pu collecter les recherches mensuelles qui sont faites un peu partout dans le monde. Alors, c'est international, la recherche a été faite un peu partout, des provenances un peu partout. Les recherches effectuées montrent qu'il existe beaucoup de sentiments mitigés, vous allez le voir, par les trouvailles qu'ils ont faites, les sujets qui ont été recherchés sur l'Internet. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sentiments mitigés, surtout en regard aux relations, comme le mariage, les fréquentations. Vraiment en regard avec les relations, les fréquentations aussi. Les recherches vont montrer, vous allez voir, l'émotion qui est là derrière chaque mot, chaque recherche. Voici quelques exemples de recherches menées par les navigateurs. Alors, ce sont les mots qui ont été placés là. Les gens recherchent, veulent avoir de l'information sur ces sujets-là, selon cette firme de marketing. Première question, pourquoi je me suis marié? Imaginez, 40 500 recherches par mois. Donc, on parle de 500 000, un demi-million dans l'année de recherches. Pourquoi je me suis marié? Imaginez. Tu fais cette recherche-là. Pourquoi je me suis marié? Moi, j'étais curieux, donc j'ai fait cette recherche-là. J'ai dit, me demande bien quelle réponse ils vont donner à ça. Pourquoi je me suis marié? Ils nous emmènent à un film. Alors, la personne qui recherche des réponses, vraiment, là, va être déçue parce que c'est un film. Même 3,5 étoiles, c'est même pas un bon film, plus que ça, ça a l'air. Donc, 40 500 recherches sur pourquoi je me suis marié. Imagine-toi. Comment demander à un garçon s'il veut faire une sortie, une date, comment tu fais ça? Une fille qui a l'œil sur un garçon, elle veut lui demander, comment on fait ça, demander à un garçon de faire une sortie? 14 800 recherches par mois. Et on parle de 100 quelques mille, 150, 160 quelques mille par année. Comment guérir un cœur brisé? 10 000, plus de 100 000 recherches par année. Comment on guérit ça, un cœur qui est brisé? Croyez-le ou non, comment tromper son conjoint? 5 400 recherches par mois. Par mois! Wow! Hey, ça fait 60 quelques mille par année. Et ça, c'est ceux qui ont fait des recherches, là. Comment commettre un meurtre sans se faire prendre? 2 000 recherches par mois, à peu près. Incroyable. Comment commettre un meurtre sans se faire prendre? Et pour couronner le tout, comment cacher un cadavre? C'est incroyable. Mais 1 000 recherches par mois, c'est quand même phénoménal. J'en reviens pas. C'est drôle et triste en même temps. Mais ces recherches montrent à quel point nos relations peuvent être peuvent parfois de passer d'une bénédiction incroyable, alors que ça commence par des noces, où on est tellement heureux, la journée de noces, le jour de ces noces, à pourquoi je me suis marié, à comment commettre un meurtre sans se faire prendre, à comment cacher un cadavre. Voyez-vous la progression ici? Incroyable. Alors, on sent la colère dans ces recherches-là. Et quand on ne règle pas la colère, ça monte. C'est ce qui arrive. L'amertume s'installe et tranquillement, ça va détruire, éroder nos relations. La colère. Le livre des Proverbes a beaucoup de choses à dire sur la colère. Le livre des Proverbes, c'est le livre des sagesses. Ça s'inscrit dans le livre des sagesses. C'est la sagesse de Dieu qui donne vraiment la connaissance qui vient de Dieu pour nous montrer comment comprendre la colère. Et on a besoin de comprendre la colère. On a besoin d'apprendre comment gérer la colère, comment la guérir. Un jour, le roi Salomon, tout d'un coup, devient le roi d'Israël. Et il aurait pu demander ce qu'il voulait. Dieu lui a dit, fais une prière, fais tes demandes et moi je vais te donner ce que tu veux. Fais une prière. Et ce que Salomon a demandé, on voit sa demande ici, il fait sa prière dans 1 Roi 3:9, et voici ce qu'il dit. Il dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » Maintenant, Salomon avait la parole de Dieu, il avait la loi de Dieu qui allait le guider à travers ses décisions. Mais on sait qu'il y a des décisions à prendre, qu'on a besoin vraiment de la sagesse de Dieu. Il y a des décisions, des fois, qui sont difficiles à prendre, et on a besoin de discernement pour ça. Et c'est la requête qu'il fait à Dieu. Maintenant, il n'a pas demandé d'argent à Dieu, du succès, la gloire et tout ça. Et Dieu lui a donné tout ça. Le Seigneur a été touché par sa demande, par sa requête, et l'a béni, vraiment. Il a eu. Et Dieu lui a répondu avec une sagesse, une bonne profondeur de sagesse. Et le livre des Proverbes sont le recueil de plusieurs de ces sentences, qu'on appelle de ces proverbes, de ces réflexions. Et le livre des Proverbes est bourré de sagesse. Et on va s'arrêter justement sur la question de la colère. Alors la sagesse, c'est de savoir discerner entre le bien et le mal, de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions. Et en lisant les Proverbes, on réalise que la colère fait partie de ces choses dont on a besoin de mieux comprendre pour agir avec sagesse. On a besoin de comprendre la colère, de bien d'apprendre comment la gérer aussi. Et c'est quoi la colère? Comment guérir la colère? Alors, on a besoin de comprendre 4 aspects sur la colère. La colère est une puissance dangereuse. Ça, c'est la première chose qu'on veut voir. La colère, c'est une puissance dangereuse. Deuxièmement, la colère est fondamentalement bonne. La colère, c'est fondamentalement bon. Pourquoi la colère détruit autant? Et la quatrième question qu'on va se poser, c'est comment elle peut guérir? Comment on peut guérir de ça? Alors, premièrement, la colère est une puissance dangereuse. C'est une dynamite. La colère, c'est la dynamite de l'âme. La colère a le pouvoir de détruire, tout comme de la dynamite. Et on va aller voir un passage dans le livre des Proverbes. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi. Mais juste avant, on va juste se courber, demander à Dieu sa sagesse. D'accord? Seigneur, nous voulons ce matin nous arrêter sur cette question. Question tellement fondamentale, tellement importante. Combien de ménages ont été détruits à cause de la colère. Et la colère, ça ruine des carrières, des métiers. ça ruine, ça détruit les relations, Seigneur. Et nous avons besoin ensemble, ce matin, de nous arrêter, de nous pencher sur ce que ta parole nous enseigne, sur la colère. Enseigne-nous ce matin par ton esprit. Ouvre les yeux de notre cœur, illumine notre cœur, afin qu'on puisse bien comprendre. Et surtout, Seigneur, par ton aide, aide-nous à guérir de la colère. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Et nous avons besoin de régler ces choses dans notre cœur. Et ce matin, on te prie par ton esprit, que tu puisses nous aider, un, à comprendre et à mettre en pratique aussi ce que tu vas nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on tourne ensemble dans Proverbes chapitre 14, si vous voulez bien. Proverbes 14, et nous allons lire le verset 29 et 30. Alors, Proverbes 14, versets 29 et 30. Alors, verset 29 dit ceci, « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa bonté. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. » Le mot « envie » ici en hébreu, c'est l'idée d'ardeur, de passion. On sent l'agressivité en quelque sorte. C'est très passionné. Et c'est ce que ça dit ici. « Alors, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. » Donc, ça détruit. Plusieurs recherches ont démontré, et on le sait maintenant, on entend parler avec plusieurs entrevues à la télévision, plusieurs recherches ont démontré comment la colère cause plus de dommages sur notre système, sur notre corps et sur notre cœur que l'anxiété même, que la peine ou toute autre émotion possible. La colère, c'est ce qui détruit le plus notre système. Ça fait du mal, ça fait du tort. Aucune émotion a autant d'incidence sur notre santé que la colère. On a même découvert que la colère a fait plus de dommages sur le cœur qu'un effort physique extrême peut en causer. Rien ne peut autant vous conditionner à une attaque cardiaque que la colère. La colère ronge notre système. Verset 30 dit ceci, « Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie, cette passion, cette agressivité est la carie des os. » Dans le français courant, dans une autre version, mais dans le même verset, on lit cette version, « La paix de l'esprit favorise la santé, mais la passion est un cancer qui ronge les os. » Eh bien, la colère peut détruire d'abord ton corps, mais deuxièmement, la colère peut détruire une communauté. Le Proverbe 15-18 dit ceci, « Un homme violent pousse au conflit. » Et dans le français courant, ça dit ceci, un homme coléreux provoque des disputes. Quand on se met en colère, on lance des mots partout. À un moment donné, c'est même pas réfléchi, on va lancer toutes sortes de paroles, des choses méchantes, parce qu'on veut faire mal à l'autre. Et ça devient une arme. Il y a beaucoup de puissance et de pouvoir dans des mots. Et lorsqu'on est en colère, des mots sortent, puis ça fait du dommage, vraiment, ça fait des ravages. Ça blesse les gens, les mots vont détruire les relations, et c'est parfois trop tard, on aimerait ça ramener les mots, mais elles sont dites, c'est envoyé, c'est dans les airs, c'est là, on peut dire, non, t'essaies de réparer les relations après, mais c'est très difficile, les mots sont sortis, et sa sortie, ça n'a pas été dosé, réfléchi. La colère peut aussi détruire votre sagesse. C'est cette capacité de prendre de bonnes décisions. Quand on est en colère, ça nous rend dans un état un peu second, pas tout à fait là. Et là, on va réagir, on va dire des choses là, non réfléchies, irréfléchies. Proverbe 14-29 dit, « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Quand on se met en colère, on dit des choses qu'on regrette plus tard. On y pense après, Puis on se dit, bon sang, comment ça que j'ai pu dire ça? Comment ça que ça a sorti? Puis tu regrettes, tu te sens comme nono, tu te sens idiot. Tu te dis, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Et c'est parce que tu as agi en idiot. J'ai agi en idiot. Je me suis laissé aller. Et c'est ça que ça dit le verset. Celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. C'est de la folie. Quand on se met en colère, la vision est embrouillée. La vision des choses, la vision de la circonstance autour de nous autres, la vision des gens autour de nous, la vision qu'on a envers nous-mêmes aussi, la vision du monde, la vision de la situation n'est pas juste, n'est pas claire. C'est pour ça que souvent, c'est très bon d'aller même chercher quelqu'un, d'aller chercher quelqu'un peut-être qui est à l'extérieur, qui est en dehors de la forêt, et il peut justement être plus objectif. Parce que quand on est en colère, mon ami, ça brouille toute notre vision de la situation, la difficulté à réfléchir sagement et prendre de bonnes décisions. Et là, on prend de mauvaises décisions, des décisions qui sont prises dans l'élan de la colère, et ça a changé des carrières complètes sur un coup de colère, là, alors que ça aurait été peut-être moins pire, rester. Enfin, non seulement la colère peut détruire notre corps, notre communauté, nous empêcher de prendre des bonnes décisions réfléchies, mais ça, la colère va également affecter notre façon de faire des choix intelligents. Ça l'affecte ta volonté. Le Proverbe 19, 11 dit ceci, « L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. » Parmi toutes les émotions, la colère est celle qui se compare à une substance addictive. La colère conduit au déni. Demande une chose à quelqu'un, t'es en colère. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on a de la difficulté à reconnaître comment on est en colère? On va avoir moins de difficulté à reconnaître qu'on a fait une erreur. Moins de difficulté à reconnaître certains domaines, certaines émotions dans notre vie. On n'aura pas de problème à reconnaître qu'on est triste, par exemple. Qu'on s'inquiète. Mais de reconnaître que tu es en colère, on dirait qu'on a bien de la difficulté avec ça. On a de la misère à reconnaître notre colère. On va entendre des phrases comme, non, je suis pas en colère. Ou, je fais simplement dire ce que j'ai sur le cœur. Ou, je cherche la justice. Je suis une personne directe, c'est tout. Je dis comme je le vois. Nier être en colère nous donne le droit, en quelque sorte, de l'être. Et c'est un servicieux. Et c'est ça que le verset est en train de dire. Si c'est pas repris, contrôlé, on encourage à recommencer. Ce que le proverbe est en train de dire, c'est que si tu laisses libre cours à la colère et la personne nie sa colère, elle va continuer. C'est un servicieux. On continue longtemps dans notre colère. Et on connaît des gens qui ont été en colère pendant bien des années. On connaît des gens, moi, qui ne se parlent plus dans la même famille pendant 15 ans, 10 ans et 15 ans. 15 ans de temps de plus se parler, frères et sœurs dans la même famille. Toutes sortes d'émotions. Mais la colère, ça fait des ravages. Pendant un certain temps, on croyait que c'était bon d'exprimer sa colère. Mais là, il y a un revirement qui se passe. Il y a une lettre d'opinion qui a été diffusée dans un quotidien qui s'adressait à un conseiller. Voici la lettre d'opinion diffusée dans un quotidien. Et voici ce que ça dit. « Cher conseiller, vous avez conseillé à une mère qui a un enfant de 3 ans et qui a des problèmes de colère de laisser l'enfant frapper les meubles de la maison afin d'extérioriser sa colère. Eh bien, mon plus jeune frère avait l'habitude de frapper les meubles chez nous quand il était fâché. Il a maintenant 32 ans et il frappe toujours les meubles chez lui, du moins ce qu'il en reste, mais il frappe aussi sa femme, ses enfants et tout ce qui se trouve sur son chemin. La semaine dernière, il a jeté sa télévision du 2e étage à travers la fenêtre qui était fermée. » Maintenant, cet article paru dans la Psychology Today, et l'article montre comment il y a 20 à 30 ans passés, on mettait l'accent sur le fait qu'on devait exprimer sa colère et c'était sain pour la santé de le faire. Mais là, il y a un revirement depuis quelques années parce qu'on réalise de plus en plus que c'est une erreur. Et les gens reviennent de plus en plus à ce que le livre des Proverbes a toujours dit depuis 2000 ans et 3000 ans. Nous avons besoin de réaliser que la colère est une puissance qui peut détruire. Non seulement la colère peut détruire notre corps, notre communauté, nous empêcher de prendre de bonnes décisions, mais la colère peut également affecter notre volonté, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir faire des bons choix, des choix réfléchis, intelligents. Mais la colère est fondamentalement bonne. Les proverbes ne parlent pas que négativement de la colère. La Bible a de bonnes choses à dire sur la colère, des choses positives, juste parce qu'à la base, la colère est essentiellement une bonne chose. Remarquez ce que dit le Proverbe, chapitre 16, verset 32. Ça dit, « La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme, mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. » Les proverbes parlent d'un idéal, et cet idéal n'est pas l'absence de colère, c'est la lenteur de la colère, la lenteur à la colère. Savez-vous que c'est même un péché que de jamais se mettre en colère, comme c'est un péché d'éclater en colère, les deux extrêmes. Maintenant, bien des gens explose en colère, il se justifie en donnant le passage où Jésus est entré dans le temple et il a tout renversé. Là. Comme si Jésus rentre dans le temple, il voit les voleurs, les abuseurs qui étaient là, et puis il renverse les tables et tout ça, puis il éclate sa colère. Puis on dit, regarde, Jésus s'est mis en colère. Absolument, Jésus s'est mis en colère. Et c'est une bonne chose. C'est une colère qui est sainte, qui est saine. Laissez-moi retourner dans ce passage-là, par exemple, pour faire remarquer ce qui s'est passé. On veut s'arrêter là-dessus. Dieu a dit dans l'Ancien Testament que chaque famille, une fois par année, la fête juive, chaque famille devait acheter un agneau et aller à Jérusalem. Donc, c'est une fête solennelle, ce qu'on appelait une sainte convocation, où indépendamment où tu restais en Israël, il te fallait pour une semaine d'attendre la fête de la Pâque, te déloger, aller dans un bed and breakfast à Jérusalem pendant quelques jours. Il y avait toutes sortes de lois qui avaient été mises sur pied, même pour accueillir les académies rabbiniques et les juifs et tout ça, qui venaient à Jérusalem, une ville qui se remplissait pour quelques jours pour cette sainte fête-là. Il y a des gens qui achetaient des agneaux en chemin, ça coûtait moins cher lorsqu'ils descendaient, mais il y avait des agneaux qui se vendaient aussi à proximité et au temple. Juste un seul marchand avait 3000 agneaux à vendre qu'on a découvert, et ça, il y avait plusieurs marchands qui étaient là. Et en principe, dans un sens, on pourrait dire que c'était presque une bonne chose si c'était pour aider les familles à payer moins cher et dédommager les familles. Alors, il y aurait moyen, il y aurait eu lieu de le faire correctement. Mais Dieu a dit dans l'Ancien Testament que si tu étais pauvre, si tu étais une famille pauvre, tu n'avais pas besoin d'acheter d'agneau, tu pouvais acheter juste un oiseau, une colombe, ça coûtait moins cher. Mais ce que les chefs religieux ont fait, ils ont commencé à prendre un cartel, à avoir le cartel sur ce qui se vendait, ce qui s'achetait. Puis ils ont commencé à avoir le monopole du commerce, des ventes de l'agneau. Et ce qu'ils faisaient, parce que c'était les chefs religieux et c'était eux autres qui devaient déterminer si l'agneau était parfait, parce que c'était un critère, si tu devais offrir un agneau en sacrifice, il fallait que l'agneau soit sans tache, soit parfait. Et ce que les gens faisaient, c'est que les familles achetaient l'agneau au nord et descendaient avec, passaient quelques jours avec l'agneau et l'offraient en sacrifice. Et lorsqu'ils arrivaient au temple, le chef, les pharisiens disaient, ah, non, il est pas parfait, je vois une petite tache, là, quelque chose ici, un petit peu, là, petite tache, donc, c'est refusé, allez acheter notre agneau, il est correct. Il a déjà été vérifié. Et non seulement ça, on découvre dans le Talmud, c'est la littérature juive, ça nous donne l'information un peu comment les gens agissaient, vivaient dans la vie quotidienne de l'époque. Dans le Talmud, on découvre que même les rabbins se plaignaient des frais que l'on chargeait pour les colombes. On peut lire dans le Talmud que les chefs religieux chargeaient 2 pièces d'or pour des colombes, alors qu'ils auraient dû charger 2 pièces d'argent. Ils abusaient, alors qu'ils auraient dû dédommager les pauvres, les familles démunies, les accommoder pour pouvoir mieux adorer Dieu. Eux en profitaient pour abuser les démunis, les familles démunies, et faire de l'argent sur le dos des familles pauvres et qui souffraient. Jésus voit tout ça, les voleurs, les abuseurs et tout ça. Alors, il va rentrer dans le temple. Et il va renverser les tables, et ça dit bien d'ailleurs le passage qu'il a dit dans Marc 11, verset 17. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Vous volez, vous abusez, les démunis, les pauvres, alors que vous auriez dû être à leur service pour les accommoder et les aider à mieux adorer Dieu. Maintenant, la colère de Jésus-Christ est pure à 100%. Mais regardez bien, et c'est un chef-d'œuvre d'observer quelque chose qu'on n'observe pas habituellement, parce que c'est un petit détail, on ne s'arrête pas là-dessus, on lit et on passe par-dessus. Mais regardez bien ce que Jésus fait. En fait, la fête de Pâques durait quelques jours. Et quand on voit Jésus entrer dans le temple, c'est la deuxième journée. Il était là à Pâques, il était au temple la veille. Il avait vu les voleurs, il avait vu tout ce qui se faisait, les abus et tout ça. Il l'avait vu la veille. Il avait tout vu ça. Donc, c'est pas impulsif, un coup d'impulsivité. Il rentre au temple, il voit ça, puis il se met en crise, puis il éclate et tout ça. Absolument pas. C'est vraiment intéressant parce que non seulement qu'il s'est maîtrisé, et on va le voir, mais la journée où il va chasser les voleurs, les abuseurs, la même journée, le matin même, il va maudire un figuier. Et là, il sort de la maison, à peu près 2-3 kilomètres de Jérusalem. Chaque soir, il allait à Béthanie, puis revenait le matin à Jérusalem, passait la journée. Et le matin, il marche, il voit le figuier, il a faim, il s'approche au figuier. On a déjà expliqué ce passage. Il y a des feuilles, il a l'air d'avoir des fruits, il n'y a pas de fruits, il voit qu'il n'y a pas de fruits, alors il maudit l'arbre. Alors, les disciples ne comprennent pas, c'est le figuier maudit, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et Jésus n'explique pas ce qui se passe. Mais le figuier maudit représente le jugement qui va s'abattre justement sur Jérusalem, parce que Jérusalem n'a pas les fruits derrière le feuillage spirituel, ces gens qui est une fête religieuse où on aurait dû voir des cœurs consacrés à Dieu, la repentance. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des abuseurs, des voleurs et tout ça. Donc le figuier devient une image de ce qui s'en vient, le jugement d'Israël. Et la leçon qui est la troisième journée que Jésus va donner à ses disciples. Et là, il va s'arrêter à Pierre. Pierre va dire, regarde, le figuier que tu as maudit hier, donc c'est trois jours, la troisième journée. Pierre demande, le figuier est maudit, regarde, le figuier que tu as maudit hier et tout ça. Et Jésus explique, il va expliquer, voici ce que je veux voir. Et là, il va expliquer ce qu'il veut voir derrière le feuillage. Il veut voir des fruits dans le cœur des gens. Et Jésus, Dieu a toujours cherché, depuis l'Ancien Testament, il cherchait des cœurs. Il regarde au cœur. Il ne regarde pas au paraître, à ce qui frappe les regards. Il regarde au cœur. Il cherche des fruits dans le cœur. Maintenant, je vous explique ça pour une raison. Alors, regardez bien ce qui se passe dans le passage qui va suivre. La veille qu'il a jugé, qu'il est rentré au temple, et là, il a exprimé toute la colère et tout ça. La veille, regardez ce que ça dit, chapitre 11, verset 11. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré, il a considéré quoi? Quand il a tout vu, les abus, là, tout ce qui se passait, là, il l'a vu, là. Quand il a tout considéré, comme il était déjà tard, s'en alla à Béthanie avec les 12. Voyez-vous? Donc, Jésus a passé la nuit. Et moi, je pense que ce qu'il a fait, il a prié. Son cœur devait être triste de voir l'état spirituel et superficiel des gens à Jérusalem. Il a dû passer la nuit à pleurer, à prier. Il a dû avoir un cœur plein de colère, à voir cela, de voir l'état du cœur humain. Mais regardez bien, dans cet état-là, ayant déjà tout considéré ce qui se passait à Jérusalem, il n'a pas éclaté en colère. Il est retourné à marcher 3 kilomètres, couché là, probablement passé la nuit à la prière. Et non seulement ça, tu aurais pu penser qu'il aurait accumulé sa colère. Vous savez comment est-ce qu'on est des fois? Tout se préparer, puis partir le matin à courir, puis aller à Jérusalem faire le ménage. C'est même pas ça qu'il a fait. Il s'est arrêté à un figuier parce qu'il voulait donner une leçon spirituelle à ses disciples et former ses disciples. Il s'est servi de la situation de Jérusalem pour donner une leçon profonde sur la richesse, une richesse spirituelle ici, là, sur le cœur humain. Il veut voir des fruits dans le cœur. Et les fruits, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la foi, c'est l'espoir. La foi, l'espérance et l'amour qu'on voit à la suite du passage, le lendemain. Imaginez, parle de quelqu'un qui se maîtrise. Incroyable. Il s'est même servi de ça pour donner une leçon, pour un enseignement à ses propres disciples et former ses disciples encore davantage. Jésus était lent à la colère. Et c'est là qu'il faut en venir. C'est l'idéal que le livre des Proverbes nous enseigne, être lent à la colère. Éphésiens 4, verset 26, le dit bien, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Alors, l'idéal dans la Bible, c'est d'être lent à la colère. Jean Chrysostome résume bien l'enseignement que donne la Bible sur la colère. Il dit ceci. Il dit, mettez-vous en colère, mais gardez-vous de pécher. Celui qui se met en colère sans raison. En effet, il y a aussi de justes colères. La preuve, c'est que Paul lui-même s'est mis en colère contre Élim et Pierre, contre Saphir. Mais à vrai dire, ce n'est point ici une colère comme une autre. C'est sagesse, c'est sollicitude, c'est prévoyance. Un père s'irrite contre son fils, mais c'est pour le bien de celui-ci. Celui qui se fâche sans raison, c'est celui qui se venge. Au contraire, celui qui redresse les autres d'autrui, les fautes d'autrui, celui-là est le plus charitable des hommes. Ainsi, quand Dieu lui-même se met en colère, comme on dit, ce n'est point pour se venger, mais pour nous ramener au bien. Suivons cet exemple. Sa colère est juste. De plus, cette colère n'a rien chez lui d'une passion. Par conséquent, prenons garde, nous aussi. Car si la colère a été mise en nous, ce n'est pas pour que nous péchions, mais bien pour que nous empêchions les autres de commettre le péché. Ce n'est pas pour qu'elle devienne chez nous une passion, une infirmité, mais pour qu'elle soit un remède aux passions. Jugez donc quel est l'excès de perversité quand le remède devient un poison, quand ce qui devait guérir les plaies d'autrui devient entre nos mains une arme qui blesse. Lent à la colère. Voilà ce qu'on doit chercher. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Il est lent à la colère. Donc, mes chers amis, le message que le livre des Proverbes nous donne à l'endroit de la colère, c'est que soyons lents à la colère. C'est notre prière, notre requête. Seigneur, donne-moi d'être lent à la colère. C'est la sagesse de Dieu qui l'a dit. Soyons lents en colère, car c'est la marque d'une personne sage et intelligente. Soyons lents en colère, car c'est un attribut de Dieu. Dieu est comme ça. Il est lent à la colère. C'est vraiment intéressant lorsque Moïse se trouve au mont Sinaï. Il fait une prière. Il veut voir Dieu, mais c'est impossible de voir Dieu. Dieu lui dit, écoute, tu peux pas me voir, sans ça tu vas mourir. Et Dieu, il dit, écoute, je vais faire une affaire. Tu vas voir mon dos. Et là, il le place, il le cache derrière une roche, puis tout ça. Parce que sans ça, Moïse ne serait pas capable de le voir, sans mourir. Donc, Dieu, il donne, en quelque sorte, tout ce qu'il peut donner sans lui faire du mal. Et nous lisons que lorsque Dieu a passé, Dieu donne son nom, et il se révèle en passant. Et voici ce que ça dit dans Exode 34, 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Il y a un cri très fort. Imagine-toi donc quand Dieu qui crie. Là. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voici Dieu qui révèle sa gloire qui va passer devant Moïse. Et la gloire de Dieu qui passe devant Moïse comprend la colère. Ça comprend sa colère. Mais il est lent à la colère. La gloire de la colère de Dieu, c'est qu'il est lent à la colère. Certaines personnes ont la difficulté à concevoir que Dieu est en colère. Ils ont la difficulté à croire à un Dieu qui se met en colère. Ils ont de la difficulté à percevoir un Dieu qui va se mettre en colère et ils vont dire, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Je peux pas imaginer qu'un Dieu de colère. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il peut pas se mettre en colère. Mais savais-tu que si tu n'es jamais en colère, c'est que t'aimes pas vraiment. N'est-ce pas? Si t'es jamais en colère, là, c'est que t'aimes pas vraiment. C'est du jugement foutisme. Si ton Dieu ne se met jamais en colère, c'est que t'as pas un Dieu d'amour. Si tu aimes, et tu aimes, et ce que tu aimes est menacé, tu vas être en colère. Puis ça va être une colère qui est juste. Mais si ça te dérange pas du tout, qu'une personne que t'aimes est menacée, ça te dérange absolument pas, complètement désintéressé, pas affecté, c'est que t'aimes pas la personne vraiment. Un de mes amis, étudiant en psychologie à l'Université de Montréal, il a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il a dit, je pense que vous l'avez déjà partagé, puis il disait que dans ses études, il a découvert quelque chose dans ses études en psychologie, ils ont fait des recherches, puis ils ont découvert une chose, c'est que plus que que tu as de l'affection à une personne, plus que tu es intime avec une personne, plus que lorsque tu te mets en colère, ça va être intense. En d'autres mots, il y a un lien direct entre l'intensité de la colère et l'amour que tu vas avoir pour la personne. Il y a des gens qui interprètent des couples qui se chicanent, ils vont dire, écoute, ils ne doivent pas s'aimer, les gens-là. Non. Maintenant, il faut faire attention, là. Il y a bien des choses là-dedans, là, c'est plus compliqué que ça. On va regarder un petit peu ça tantôt. Mais soyons honnêtes. Moi, que mon dixième voisin, que l'enfant de mon dixième voisin fait des bêtises à l'école, honnêtement, ça me dérange pas. Là. Pas tellement, en tout cas. Hein? Soyons honnêtes, là. Mais que mon fils fasse des bêtises à l'école, hey, je l'attends demain soir, là. Tu comprends-tu? Quand ton prof, moi ça m'est déjà arrivé quelquefois, que le prof appelle, puis dit, j'aimerais ça vous rencontrer, j'aurais besoin de vous rencontrer, vous parler pour votre enfant. Là. Déjà, tu sais même pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait encore. C'est parce qu'on les aime. Mais si tu disais, ça me dérange pas, il peut faire ce qu'il veut à l'école. Tu l'aimes vraiment? Non, c'est pas de même qu'on mesure vraiment l'amour. Là. C'est pas vrai ça. Rebecca Pippert, qui est un auteur de plusieurs livres, a dit la colère n'est pas à l'opposé de l'amour. La colère n'est pas à l'opposé de l'amour. La haine l'est. C'est la haine qui l'est. Et la forme ultime de la haine, c'est l'indifférence. Plus un père aime son fils, plus il est en colère contre l'ivrogne, le menteur et le traître qui se trouve dans son fils. N'est-ce pas? Si une femme égoïste et imparfaite comme je le suis, peut éprouver autant de souffrance et de colère à l'endroit d'une personne. Combien plus forte raison un Dieu moralement parfait peut-il en éprouver envers celui qui l'a créé? L'amour authentique se mettra toujours en colère. Ne vous imaginez pas que vous aurez jamais de colère, puis ça, c'est vraiment la spiritualité tient à son summum. Ce n'est pas l'absence de colère, c'est d'être lent à la colère, comme Jésus l'a été. Voici comment un commentateur l'exprime, il dit, dans son état pur, la colère est simplement l'amour qui affronte la menace qui se profile sur une personne que l'on aime. La colère est l'amour en action contre ce qui menace celui que vous aimez. Si quelque chose menace une personne que vous aimez, vous vous mettez en colère contre ce qui menace celui que vous aimez. Regardez à ce qui vous met en colère le plus. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. C'est vraiment là que ça se passe. S'il est vrai que justement l'amour, la colère, c'est l'amour en action contre ce qui menace que l'on aime, si c'est vrai ça, donc, je dois me poser la question lorsque je me mets en colère. Je dois vraiment me poser la question. Que suis-je en train de défendre au juste? Qu'est-ce qui me met en colère? Que je veux absolument garder, protéger? Qu'est-ce qui est menacé que je veux garder et que je veux protéger? Et c'est là que ça se passe. C'est là que j'ai besoin de sonder mon cœur. Regardez à ce qui vous met en colère le plus et posez-vous la question. Que suis-je en train de défendre? La réponse vous dira ce que vous aimez le plus. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu est en colère. Et c'est parce qu'il nous aime et qu'il est en colère contre le cancer du péché qui nous ravage autant et qui détruit ce qu'il a créé. Jésus s'est mis en colère contre les hypocrites, contre les chefs religieux. Jésus aime d'un amour pur, saint, et son amour est parfait. Alors, si la colère est fondamentalement bonne, pourquoi elle détruit autant? Eh bien, Proverbe 24 dit ceci, les versets 28. Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain. Voudrais-tu employer tes lèvres à tromper? Ne dis pas, je lui rendrai l'appareil, en d'autres mots, la vengeance. Je paierai à chacun le salaire de ses actes. Voici quelqu'un de vraiment fâché, verset 29. Mais au verset 28, on dit que c'est sans raison. La colère de cette personne est disproportionnée, elle est amplifiée. Et c'est ça qui arrive. Notre colère est déséquilibrée. C'est saint Augustin qui a dit, « Notre plus grand problème, c'est que nos amours sont déséquilibrés. » Les amours déséquilibrés signifient qu'il y a plusieurs choses qui sont bonnes dans la vie. On pense à la famille, le travail, nos relations, notre épouse, notre époux, nos conjoints, les causes politiques, nos accomplissements. C'est des bonnes choses, toutes des bonnes choses en soi. Plusieurs choses sont bonnes dans le monde, mais nous changeons les bonnes choses et nous les plaçons à la première place. Ce n'est pas qu'on regarde ces choses comme bien et agréable, ce n'est pas qu'on regarde à ces choses comme bien et agréable, c'est qu'on cherche en elles la sécurité, on cherche en elles le bonheur, dans des choses matérielles, ou dans des personnes même, qu'on aime, qu'on affectionne. On cherche de la sécurité, de l'amour, de la valeur, alors que c'est seulement en Dieu qu'on peut la trouver, vraiment. C'est Dieu qui peut nous procurer ces choses. Alors, lorsque nous préférons des choses, des bonnes choses en soi, lorsqu'on les préfère à Dieu, c'est là que nos émotions sont mal enlignées, sont disproportionnées. Il y a un problème, là. Et c'est ce qui arrive avec la colère. L'amour déséquilibré crée de la colère déséquilibrée. Regardez comment on peut être fâché après des choses qui sont très petites, qui nous touchent à peine. 10 fois, 100 fois plus que de la violence qui se fait à travers le monde. Moi, quand quelqu'un me coupe sur la route, sur l'autoroute, c'est pas trop pire. C'est pas pire. La moutarde ne monte pas au nez encore, tout à fait. Tu peux me couper, c'est pas trop pire. Mais tu me coupes 2-3 fois en chemin sur l'autoroute, puis si tu coupes et tu colles, et puis il n'y a rien de pire quand quelqu'un te colle juste en arrière, te touche presque, en arrière, la voiture, collée, tu la regardes, fatigant. Là, tu sens que ça commence à monter, ça monte. Là, écoute, puis il passe à côté de toi, puis il fait ce que tu sais. Puis tu le regardes, puis tu fais un regard, puis tout ça. Puis là, il crie après, puis ça. Hey! Hey, ça n'a pas d'allure. Hey, une fois, je me suis fait couper sur le boulevard, la montée paiement. Hey, ça n'a pas d'allure. Hey, je me suis fait couper. Je pars après le gars. Il y a un pasteur. Ça n'a pas d'allure. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Ça n'a pas d'allure. Je suis le gars, je le collais. Puis, oh, j'espère juste qu'il va sortir. Oh, j'espère qu'il va sortir. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. J'ai dit, tu sais, quand on dit là que tu es un petit peu nono quand tu te mets en colère, c'est ça qui est arrivé. J'ai dit, calme-toi, Normand. Calme-toi. Mais c'est drôle, j'ai jamais ces émotions-là, par exemple, quand on me raconte que comment quelqu'un a été violenté à quelque part, à l'autre bout du monde. Tu as remarqué? C'est quoi qui a été touché, là, qui m'a mis en colère? Est-ce que c'est quelque chose de pur et sain? Absolument pas. C'est le moi. Hey, fais attention à moi. Moi, quand je passe sur la montée de paiement, c'est moi qui passe sur la montée de paiement. Non? Pas mal. C'est pas mal ça. Sondons notre cœur. Examinons ce qu'on est en train de défendre, ce qu'on veut garder, protéger. Puis tu vas voir ton cœur. C'est ce que saint Augustin voulait dire, justement. C'est qu'il y a des bonnes choses dans la vie. Mais quand tu les mets à la première place, ça marche pas, là. C'est seulement Dieu peut te procurer cette satisfaction-là, cette soif dans ton cœur, dans ton âme que tu veux être quelqu'un. C'est juste Dieu qui te donne ça. Par son Esprit Saint, qui te communique constamment que tu es son enfant, quelqu'un qui est aimé. Et la colère déséquilibrée cherche la vengeance. Alors, comment guérir la colère? Comment on guérit de ça? 3 étapes. Premièrement, reconnaître ta colère. Tu peux pas la nier. Tu peux pas faire dire, là, non, je suis pas en colère. Je suis pas en colère. Oh, je dis ce que je pense et tout ça. Il faut que tu la reconnaisses. Ça commence avec l'humilité. Faut la reconnaître. Parce que si tu nies la colère, tranquillement, ça te donne le droit de continuer à l'être. Tu veux pas ça. Donc, tu reconnais premièrement ta colère. Ça commence par là. C'est critique. Parce que nier sa colère sème l'amertume et ça va rendre la réconciliation très difficile. Mais si tu la reconnais, tu reconnais ta faiblesse, ta vulnérabilité, là, tu es en train de favoriser la réconciliation. Alors, premièrement, tu la reconnais. Deuxièmement, analyse ta colère. On revient là-dessus. Tu te poses la question, qu'est-ce qui est si important pour moi que je sens le besoin de la défendre? Qu'est-ce qui peut être si important pour moi que je suis prêt à tout chambarder autour de moi, même mes relations, même les personnes autour de moi, pour ne pas perdre ce que je considère être le plus important? Et quand on se pose la question humblement, cela va nous conduire directement à la racine de mon cœur. Troisièmement, on transforme la colère. Proverbe 15 dit ceci. Une réponse douce calme la fureur. Tandis qu'une parole dure augmente la colère. Même si quelqu'un vient te voir et te confronte d'une manière là, cavalière, cowboy, là, tu réponds avec douceur. En d'autres mots, tu remplaces le mal qu'il vient de te faire par le bien. Et il y a bien des couples, là, si on faisait ça, bon, on sent qu'il y a tellement des couples qui iraient mieux. Quelqu'un te fait du mal, au lieu de dire « il me fait du mal », puis tu pointes le doigt, pourquoi ne pas répondre par le bien? De faire le bien en réponse au mal. Et c'est ça que le proverbe est en train de dire. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Et c'est même prouvé chez les policiers. Il y avait un gars de Los Angeles, un des assistants-chefs à Los Angeles, de toute la police à Los Angeles. Il y a des employés là-dedans, il y en a des policiers. Là. Il y en a qui, dans certains quartiers, ils se battent 3 fois par semaine à Los Angeles, les policiers là-bas. Là. 3 fois par semaine. Et il nous disait quelque chose de vraiment intéressant avec la venue des femmes policières. Ils l'ont dit, il y a 2 réactions que ça a faites. Une, pas le fun, mais une vraiment intéressante. Une qui est pas le fun, c'est que lorsqu'il y a un gars, un criminel que tu vas arrêter, il y a un gars puis une fille, policière, le gars va s'asseyer un peu plus s'il voit une fille. Fait qu'ils ont découvert qu'il y a plus de batailles depuis qu'il y a des femmes policières. Dans ce sens-là, les gars s'asseyent plus. Lorsqu'il y a 2 gars qui sont là, c'est un peu plus comme, tu sais, ça gèle. Mais la bonne chose qui compense beaucoup, c'est qu'apparemment, les femmes ont plus le tour de calmer la fureur. Elles vont parler davantage aux criminels, elles vont calmer, c'est moins tendu. Il y a bien des policiers qui sont là, qui sont prêtes, sont sur le gun, là, sont, tu sais, ah ouais, vas-y, j'attends juste. Non, les femmes, parmi la police, le chef de police nous racontait ça, au contraire, ça l'a calmé beaucoup, ça l'a enlevé de la tension. Elles sont plus sages. Elles sont plus sages à négocier, la négociation. Elles sont très fortes dans la négociation, à calmer la fureur, l'agressivité des gens. Alors, c'est ce que ça dit. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Alors, même si quelqu'un vient te voir, te confronte d'une manière cavalière, tu réponds avec douceur. Tu transformes ta colère, tu la canalises. Mais la Bible va encore plus loin. Proverbe 25, ça dit ceci, verset 21, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc, non seulement tu réponds en douceur, mais tu lui fais même du bien. Tu fais du bien à ton ennemi. Tu vas même en prendre soin, tu vas la sauver, dans quelque sorte, parce qu'elle a besoin de nourriture, elle crève de faim, elle a faim, ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu vas la sauver, sauver sa vie, en lui donnant la nourriture, en donnant à boire, s'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Vous savez, les gens à l'époque se chauffaient avec du charbon. Et lorsqu'il te manquait de charbon, tu n'avais pas assez de charbon, tu ne pouvais plus réchauffer ton foyer, tu allais voir ton voisin, tu lui demandais du charbon. Et si ton voisin était vraiment, et on trimballait ça sur des bocales et sur la tête, là, on marchait avec ça, c'est charbon. Si ton voisin était vraiment généreux, c'est où ce qu'il faisait? Il donnait du charbon ardent, déjà prêt à chauffer, que tu rentres dans ta maison et tu peux chauffer. Alors, tu agis comme ça, c'est comme ça que tu agis. Et tu te fais exactement comment le Seigneur agit. Si ton ennemi a faim de lui à manger et à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel va te récompenser. Tu fais du bien, tu es généreux, tu agis avec générosité, avec bonté. Donne à manger à ton ennemi même. Fais pas juste les pardonner, fais-leur du bien. Et vous savez quoi? C'est ce que Jésus a fait. Nous étions les ennemis de Dieu. Jésus est allé à la croix pour prendre sur lui la colère de Dieu qu'on méritait. C'est vraiment intéressant parce que lorsque Jésus est allé dans le jardin de Gethsémané prier avec ses disciples, vous savez ce qu'il a dit dans sa prière? Il a dit, Seigneur, il a fait une prière à son Dieu parce qu'il voyait le sacrifice qui s'en venait, la croix qui s'en venait, sa mort, et prendre sur lui tous les péchés du monde. Et ça va préparer la Sainte Cène. Alors, j'inviterai les frères à venir pour la distribution des éléments de la Sainte Cène. Et c'est exactement ce que Jésus a fait, cette prière. Si tu peux éloigner la coupe, mais pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et la coupe dans l'Ancien Testament fait référence à la colère de Dieu. Si tu peux éloigner ta colère sur moi, mais pas ma volonté. Parce que Jésus savait que le seul moyen d'écarter la colère de Dieu sur nous, à cause que nous avons péché, c'était de la prendre sur lui. Et c'est ce que Jésus a fait. La meilleure façon de transformer sa colère, c'est de regarder à Jésus. Lorsque les gens agissent mal envers nous, nous pouvons faire la même chose et suivre l'exemple de Jésus. Nous pouvons être lents à la colère.